Considérant que l'ignorance, l'oubli,
tous les hommes sont des égaux.
Ou le mépris des droits de l'homme.
La nouvelle déclaration universelle des droits de l'homme. Dans la dignité et la valeur de la personne humaine. Dans l'égalité des droits des hommes et des femmes. De la justice et de la paix dans le monde.
On résolut d'exposer dans une déclaration solennelle les droits.
Les émeutes ont éclaté suite au
d'aliénage.
Bien connu des services de police.
C'est quand même curieux, c'est un texte qui a plus de 200 ans. Il n'y a pas grand-chose à y changer.
Chronique mensuelle de la section nantaise de la Ligue des droits de l'homme.
Annick Piou, Guillaume Maï, bonjour.
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 Alors, vous êtes tous les deux militants de la Ligue des droits de l'homme, avec pour vous, Annick Piou, une double casquette, puisque vous faites partie du collectif Rome Europe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer très simplement ce qu'est ce collectif Rome Europe ?
Le collectif regroupe des associations universalistes, comme la Ligue des droits de l'homme, le MRAP, le Médecin du Monde, le Gazprom, et d'autres associations qui se sont créées par la volonté de riverains des communes où se trouvaient des Roms dans des bidonvilles qu'ils ont créés petit à petit, comme à Saint-Herblain, comme à Orvault, Couëron, Bougnet, etc. Le collectif regroupe l'ensemble de ces bénévoles pour essayer d'aider les familles Roms à obtenir leurs droits.
On va revenir très vite sur cette question des familles roms et de la situation à Nantes. Guillaume Maï, vous êtes déjà venu sur les antennes de Jet FM pour parler d'un projet qui s'appelait à l'époque Au Monde Citoyen.
Et qui s'appelle toujours.
Qui existe toujours. Vous avez recueilli des paroles de citoyens de pays francophones.
Tout à fait.
Et vous venez de récidiver, c'est pour ça que vous êtes là aussi aujourd'hui, en recueillant des paroles d'enfants roms autour de la thématique de l'école.
Tout à fait, c'est ça. Après être parti un peu à l'international, je suis revenu donc à Nantes et j'étais donc déjà à la Ligue des droits de l'homme. Et dans le cadre en fait des semaines d'éducation contre le racisme et les discriminations de la FAL, de la Ligue de l'enseignement, pendant le mois de mars, il y avait des actions à mener sur ce thème des discriminations. Et donc, on a pensé avec Annick à faire un petit reportage, donc un audio photo reportage sur le bidonville de la Neustrie, plus particulièrement donc à Bougnet.
On écoutera tout à l'heure un des 5 volets de ces reportages dédiés à la question de la scolarisation et du rapport à l'école des enfants roms. Alors d'abord, en introduction, tous les deux, est-ce qu'on peut resituer justement qui sont les roms ? Parce qu'il y a souvent et beaucoup de confusion autour de ce mot.
Les roms, c'est difficile de les définir précisément parce que à la fois ils ont des points communs entre eux sur le plan de la culture et en même temps beaucoup de différences. Probablement, comme on le dit, issus de l'Inde dans une migration très ancienne. En tout cas, ils sont présents dans toute l'Europe.
10 à 12 millions hein, à l'échelle européenne à peu près.
Voilà. Donc ils ont longtemps voyagé, mais bon, je pense que tous les Européens ont été nomades et ont voyagé aussi, je crois. Et selon les pays d'Europe qui les ont accueillis, ils sont devenus un peu différents par leur métier, par leur culture, etc.
Souvent, on assimile les Roms aux gens du voyage.
Les gens du voyage sont français. Les Roms sont européens et ne sont pas français à l'origine.
Alors, ils sont originaires d'Europe de l'Est, donc Roumanie, Bulgarie, Hongrie, Grèce.
Albanie.
Oui, Kosovo, mais il y en a aussi en Espagne, il y en a en Allemagne, etc. Hein. Ceux qui sont en France sont effectivement pour la plupart d'Allemagne de l'Est.
Donc 400 000 Roms environ voilà. En France.
Ça, c'est avec la chute du mur et la fin du communisme qui les a laissés dans une situation économique très précaire.
Alors, quand on dit 400 000 Roms en France, il y en a beaucoup qui sont intégrés, qui travaillent, qui ont un logement. 15 à 17 000 Roms sans solution de logement en France. Sur la métropole, comment est-ce que ça se traduit, Annick Plou ? 1900, 1600 Roms ?
Sur la métropole, 1600, 1700, c'est un petit peu variable, ça dépend des estimations.
Qui vivent en bidonville. Hein. On ne parle que des Roms qui vivent en voilà. Bidonville ou dans des squats. Guillaume, vous souhaitiez réagir ?
Oui, je voulais juste rajouter, parce que pour les auditeurs, quand on ne connaît pas la question, ça peut être confondant. Il y a aussi donc, les gens du voyage dont on parlait au départ, qui est aussi une catégorie de droit, en fait. Les gens du voyage, c'est...
Et, une donc, catégorie dedans, juridique.
Oui. Juridique qui regroupe diverses populations, qui peuvent être même françaises dedans.
Hein. Dont on enfin, parle régulièrement même... sur l'antenne avec une excellente chronique qui s'appelle Michto, et que les auditeurs
et
peuvent retrouver.
Sont français.
Et qui sont français. Qui sont français. Qui sont français. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'eux sont dans des aires d'accueil, donc aménagées, et toutes les villes ont l'obligation maintenant de plus de 5000 habitants d'avoir une aire d'accueil aménagée, etc., avec du soutien, etc.
C'est important de faire ce distinguo entre aire d'accueil et donc réservée aux gens du voyage et camping sauvage bidonville pour les Roms.
Je voulais préciser, les Roms n'ont pas accès aux aires d'accueil des gens du voyage.
Oui.
Impossible. Ça, c'est donc interdit. Donc, les Roms qui sont sur Nantes Métropole et les alentours sont de Roumanie, tous. Ils migrent par groupes familiaux. Ce sont les plus dynamiques qui ont migré, c'est-à-dire que les plus pauvres et ceux qui, dans certains cas, en Roumanie, n'ont même pas d'état civil, ceux-là n'ont pas migré. Ceux-là restent sur place, ils n'ont pas la capacité à migrer. Donc, on a affaire à une population qui a des capacités... d'insertion, de trouver du travail, etc. Donc ça n'est pas... C'est comme bien souvent les migrants. Les migrants sont des populations dont on peut... dont le pays d'accueil peut bénéficier parce que ce sont des gens dynamiques.
Et sur... Vous êtes régulièrement, justement, en contact, Annick Plou, avec ces familles roms. Pour la plupart, elles sont arrivées en France depuis longtemps ou à Nantes depuis longtemps. Il y a tous les cas de figure.
Il y a tous les cas de figure. Certains sont arrivés en 2002. Les premières vagues de migration sont arrivées en 2002. Le plus grand nombre est arrivé en 2007. Et Nantes Métropole a eu une politique d'accueil au début pour un petit nombre. Et puis, le nombre ayant augmenté, Nantes Métropole a eu peur de l'appel d'air. Et donc, a considéré que si on les traitait mal, ils partiraient. Ce qui ne s'est pas passé.
Et il y a eu, j'imagine, aussi de nouveaux arrivants.
Voilà.
Depuis. Et ça n'a pas empêché. 35 à 40 campements illégaux ou bidonvilles, on peut choisir les mots qu'on utilise pour en parler sur l'agglomération. Quelles conditions de vie dans ces bidonvilles ?
Nous, on ne se bat pour utiliser le terme de bidonville parce que ça banalise la migration des Roms. C'est-à-dire qu'il y a eu des bidonvilles avec les Portugais autrefois, quand ils sont arrivés, que la France a eu besoin de main-d'œuvre, avec les Algériens. Oserais-je même dire avec les Bretons, quand ils sont arrivés à Nantes encore avant. Et donc, c'est une façon de ne pas stigmatiser là encore. Hein, c'est-à-dire, un campement, un terrain, tout ça, c'est quelque chose qui met à part en fait, les populations roms.
Si on revient sur les conditions de vie, assez brièvement, parce que le temps passe déjà, les conditions de vie à ces bidonvilles.
Alors, il y a les terrains qui sont les bidonvilles qui sont tolérées, comme par exemple près de Neustry, à Bougonnais, donc il n'y a pas l'électricité, les familles se débrouillent, il n'y a pas l'eau, il faut qu'ils aillent chercher au poste de secours des pompiers. Mais l'école est bien organisée, les enfants vont à l'école, il y a un bon soutien de bénévoles, et ils restent stables pendant 3 ou 4 ans. Au moins, ils en sont là, ça leur permet d'organiser leur vie.
Ces bidonvilles tolérées proportionnellement sur les 35 à 40 bidonvilles avec des familles roms dans l'agglomération, c'est quelle proportion ?
4-5 peut-être.
Vous avez cité, hein, donc Bougonnais par exemple.
Bougonnais.
C'est une volonté municipale, là, c'est
Orvault,
un choix politique municipal.
Voilà.
Bougonnais, Orvault.
Orvault, récemment Rezé, mais là c'est une histoire particulière, Rezé. Il y en a certains qui ne sont pas nombreux, qui sont une dizaine de caravanes qui se font oublier dans une zone. Hein. Ceux-là, ils nous demandent de ne pas trop les mettre en avant. Et puis, il y a tous ceux qui sont sur Saint-Herblain, qui sont actuellement sur l'île de Nantes, qui sont sur Carquefou, qui sont régulièrement expulsés. Il y a, par exemple, il y en a qui sont de temps en temps sur Orvault, de temps en temps sur Saint-Herblain, puis qui repassent régulièrement d'un côté sur l'autre. Et là, à chaque fois, les conditions sont aussi difficiles, bien sûr, hein, puisqu'il y a des problèmes d'accès à l'eau, d'accès à l'électricité. Bon, les ordures, on a à peu près résolu ce problème. Mais surtout, un problème de scolarité important, puisque si l'expulsion a lieu et qu'ils retrouvent un terrain assez éloigné pour installer le bidonville, eh bien, il faut refaire une inscription des enfants à l'école. Et comme ils ont accès aux droits sociaux par un organisme dédié qui est un peu débordé, eh bien, tout cela prend du temps, les démarches sont longues. Et les enfants sont expulsés au sein donc des familles, on a quelquefois une désinsertion scolaire pendant un an. Et donc, vous comprenez bien que des enfants qui reviennent à l'école après une école déjà différente, et après avoir quitté l'école pendant un an, il y a un suivi qui est très difficile. Des instituteurs qui ont beaucoup de mal à gérer l'ensemble. Et on est dans une situation qui est assez triste. C'est-à-dire d'enfants qui vivent près de nous et qui ont des difficultés pour avoir accès à l'école. C'est quand même de la désinsertion et c'est quand même de la destruction de l'avenir pour ces enfants.
Oui. Alors, on va reparler très précisément de cette situation nantaise. Avant, on va écouter justement la parole d'une enfant rome que vous avez recueillie, Guillaume, puisque juste avant, Annick Plou parlait de la question de la scolarité. Et puis, pour contrer certaines idées reçues qui apparemment sont parfois véhiculées jusque dans les sphères politiques nantaises en haut lieu, oui, certains enfants roms ont envie et sont même adeptes de l'école.
Je m'appelle Rebecca et j'ai 11 ans. Et je suis en CM2.
Est-ce que tu as des amis à l'école?
Non. J'ai juste ma cousine. On a 7 romaines avec nous.
D'accord.
Dans l'école. Et on a juste les romaines d'amis. Mais en fait, les autres, ils ne veulent pas être nos amis. Ils disent qu'on est des romains.
Pourquoi tu penses qu'ils ne veulent pas... Pour quelle raison, tu penses, du coup?
Parce qu'on est romains.
Tu aimerais avoir des amis gadgets?
Oui.
Ouais. Ok. T'en as déjà eu, quand même?
Oui.
Vous avez changé de classe? C'est pour ça que tu les as plus en amis,
si.
Là
si. Mais ils ne veulent plus être mes amis, je sais pas.
Tu sais ce que tu aimerais faire plus tard?
Une vendeuse de magasin ou une maîtresse.
D'accord. Pourquoi?
Parce que quand je suis allée à l'école, je ne savais pas lire, je ne savais pas écrire. Et c'est pour ça, parce que quand je vais grandir, je veux être une maîtresse pour apprendre les autres aussi un métier. Faire quelque chose dans la vie.
Donc tu parles de langues, tu parles romani et tu
oui,
parles...
français et romain, tsigane, je sais pas, il y a deux langues en romain.
Ouais. C'est quoi les deux langues?
Tsigane, je sais, romane, je sais.
Romani et roumain. Okay. Tu parles les deux langues?
Oui. Trois langues, je parle.
Tu parles les trois langues. Et à l'école, du coup, tu apprends aussi une langue étrangère ou pas? Une langue...
Oui, on apprend l'anglais. J'ai fait le CE1, CE2, CM1 et maintenant je suis en CM2.
Est-ce que tu as envie d'aller au collège?
Oui. Ouais. J'ai trop envie d'aller au collège parce que Je suis restée 3 ans à l'école primaire.
Ouais.
Et je veux y aller aussi au collège.
Pour faire ici, pour faire les devoirs, parce que j'imagine que le maître, il vous donne des devoirs.
Il ne donne, mais on les fait pas.
Tu les fais pas, pourquoi tu les fais pas?
Je sais pas très bien. À la maison, et des fois, ils ne donnent pas des devoirs à nous. C'est pour les autres élèves et nous, on les crée. Parce que à l'école, on fait. Moi, bah Francesca, elle fait pas pareil que les autres. Moi non plus, des fois. Des fois, je fais comme les autres. Je fais la dictée, tout ça, mais il y a des fois qu'on fait pas la même chose que eux.
Donc, vous êtes deux à faire différemment?
Des fois.
Ça fait combien de temps que vous êtes sur ce camp?
Bah, à peu près 4 ans.
4 ans, d'accord. Tu étais où avant?
À Paris.
À Paris, d'accord.
Je suis née à Paris.
Tu t'adaptes bien adapté à l'école au départ, tu t'en souviens? Quand t'es allée la première fois à l'école?
Oui, des fois, quand je suis... C'était la première fois que j'ai allé à l'école et c'était pour ça que j'étais un peu timide.
Ouais.
Quand je suis rentrée dans la classe, je savais pas où me mettre. J'avais des difficultés, mais après j'ai commencé à apprendre, à lire, à écrire. Je savais pas écrire, lire, et maintenant je sais tout.
Tu arrives à aller à l'école tous les jours? Aller jusqu'à l'école tous les jours?
Non.
Non.
Pas trop, parce que tu vois, il fait froid et on peut pas se lever le matin. C'est pour ça. Des fois, ma mère, elle part au travail et mon père, il va, je sais pas, il a quelque chose à faire et des fois, il faut que je reste avec mon frère.
Qu'est-ce que tu préfères à l'école et qu'est-ce que tu aimes moins?
Je préfère l'écriture, j'aime trop écrire. Et ce que j'aime pas, c'est, je sais pas, j'aime tout.
T'aimes tout à l'école? Tout?
Oui. Des fois, la géographie, j'arrive pas trop à faire, mais j'apprends bien à l'école.
Et qu'est-ce que t'aimes dans l'écriture? Tu écris des fois
Oui, j'écris tout le temps à l'école.
Et quand t'es ici, tu écris un peu?
Oui, j'apprends les autres à écrire. Mon frère, il sait pas écrire.
Ah, t'apprends aux autres à écrire?
Des fois.
Bon, et un jour, tu voudrais rester ici ou être dans un appartement comme les autres enfants ou... Comme les gadgets.
En février ou mars, on va avoir un appartement, je crois.
D'accord. T'aimerais?
Oui, parce que là, t'as pas comment faire, c'est pour ça que je fais pas les devoirs, les trucs.
Vous êtes toujours sur Jet FM dans la quotidienne. Nous sommes avec Annick Plou et Guillaume Mann et Guillaume Maille de la section nantaise de la Ligue des droits de l'homme. Nous parlons avec eux de la situation des Roms sur l'agglomération nantaise. Et l'extrait sonore que vous venez d'entendre est un reportage proposé par Guillaume Maille et qui fait partie d'une série de 5 entretiens liés à cette question de l'école pour les enfants roms de l'agglomération nantaise. Reportage qu'on peut retrouver bientôt lors d'une projection, d'une soirée débat. Je vous laisse nous la présenter. Ça s'appelle « Les Roms, des citoyens comme les autres ».
Oui, voilà. Donc, ce sont ces entretiens que j'ai menés pendant le mois de février. Par quoi commencer? Oui, effectivement, en fait, c'est deux ciné-débats. Il va apparaître ce petit documentaire d'une quinzaine de minutes dans deux ciné-débats. Le premier... le 27 mars à 20h30 au Lutetia de Saint-Herblain. Et le second, donc c'est la même chose, mais le 4 avril au Beaulieu à Bouguenay à 20h. Donc les Roms, des citoyens comme les autres, ça c'est le long métrage qui va être diffusé. Donc c'est sur la condition des Roms en Europe. Un documentaire donc de Samuel Lajus et en fait moi je en introduction donc je passerai mon audio photo reportage qui s'appelle Paroles ouvertes sur l'école, l'accueil des Roms, donc sur la condition sur le bidonville de la Neustrie à Bouguenay.
Et je précise que le réalisateur du documentaire qui sera projeté ensuite, Samuel Lajus,
Non, finalement, on me fait signe qu'il ne sera pas présent. Et que...
Ce sera la, sa co-réalisatrice qui sera là.
Mais il y aura voilà. En tout cas des échanges et des débats le 4 avril à cette projection. C'est ouvert à tous. On retrouve ces informations pratiques sur la projection, j'imagine, sur le site de la section nantaise de la Ligue des droits de l'homme.
Et sur le Facebook, effectivement, il y a l'événement qui est, auquel vous pouvez être intéressé et même participer ou poser des questions aussi. Je voulais juste aussi nommer Michel Rousseau, puisque c'était le photographe, c'est le photographe là, qui m'accompagnait pendant ce reportage et qui a été essentiel aussi, puisqu'il m'a permis de comprendre aussi davantage les conditions. Lui parle roumain, et donc voilà, je voulais le remercier ici.
Alors, on pourrait passer une émission entière à parler de cette question de l'école, et peut-être qu'on aura l'occasion de diffuser la suite des audio-reportages que vous avez fait, Guillaume. En attendant, j'aimerais bien qu'on revienne un tout petit peu pour les 5-10 minutes qui nous restent ensemble, de manière plus large, sur la situation des Roms sur l'agglomération nantaise. On le disait en introduction, à peu près 1600 personnes réparties dans 35 à 40 bidonvilles, 2-3 tolérées, donc avec... la possibilité de s'installer un petit peu dans le temps et d'avoir un suivi social et scolaire, les autres largement victimes d'expulsions récurrentes. Une grande vague d'expulsions qui a eu lieu juste avant la trêve hivernale en octobre 2017, avec 250 familles, à peu près personnes, pas familles, qui se sont retrouvées sur les routes. Et puis encore une expulsion récente le 3 mars dernier à Sainte-Luce.
En fait, on a presque du mal à compter les expulsions parce que c'est sans cesse. On espérait que la possibilité d'utiliser la trêve hivernale qui considère que les Roms dans leur bidonville sont dans un domicile qui doit être respecté pendant la trêve hivernale, on pensait que ça entraînerait une amélioration.
Alors ça, c'est une nouvelle loi qui est passée, donc c'est un point qui a été accepté en 2017.
C'est un acquis.
Un acquis, mais qui finalement, dans les faits, n'est pas...
Avec corollaire, bien des expulsions ont eu lieu avant la trêve hivernale. Voilà.
Avant, et même pendant une, pendant.
Aussi, récemment. Parce que la loi est appliquée. On a entendu cette formulation avec humanité et fermeté. Bon, voilà.
Alors, on précise que là, ce sont des expulsions donc, qui sont effectuées généralement sans diagnostic préalable et puis sans solution de relogement. Ça dépend.
Sans solution de relogement, bien sûr, puisque de toute façon, souvent, c'est des caravanes. Diagnostic préalable, il y a un grand flou, parce que quelquefois, le diagnostic a eu lieu 2 ans auparavant. Moi, j'ai pu constater que depuis 2014, alors que les familles ont le droit maintenant, puisqu'ils sont citoyens européens à part entière, ont le droit de travailler, ont accès au travail, j'ai pu constater combien, effectivement, les Roms étaient déterminés. Pas tous, ils sont différents les uns des autres. Certains ont plus de capacité, plus d'adaptation. Mais dans l'ensemble, ils cherchent à avoir du travail. Ils ont accès à du travail. Leurs employeurs sont contents de leur travail. Et ils cherchent à avoir du travail qui ne soit pas au noir, parce qu'ils veulent être reconnus et rentrer dans le circuit qui leur accorde leurs droits, les allocations familiales, et ensuite le logement. Ils savent bien, ils ont bien compris que c'est ainsi qu'ils pourront s'insérer.
Alors, une question qui peut sembler naïve, mais pourquoi est-ce que ces familles roms n'ont pas accès au logement social, et a fortiori prioritairement s'il y a des enfants?
Parce que je pense que pour les pauvres, il y a des problèmes d'accès au logement, quand même, actuellement, dans toute la France, et sur Nantes Métropole aussi. C'est ce problème-là. Je pense qu'il y a aussi la peur d'avoir l'air de privilégier ces familles pauvres-là par rapport à d'autres. C'est complexe. Nous, on comprend bien qu'on ne peut pas accueillir tout de suite, trouver des logements tout de suite. Ce qui nous semble bénéfique, par contre, c'est ce qui s'est passé à Sainte-Luce, ce qui s'est passé à Indre, où le fait de pouvoir accueillir de façon stable pendant un certain temps les familles pour les aider à progresser et puis ensuite trouver un logement. Et c'est ce qui se passe à Rezé actuellement. C'est ce que nous, on appelle les bidonvilles conventionnées. C'est-à-dire qu'il y a un accord qui est passé avec les familles qui s'engagent à apprendre le français, à trouver du travail, à envoyer leurs enfants à l'école, etc. Ces contrats, moi, je pense qu'on peut dire ça comme ça, ces contrats de respect mutuel, hein, où les familles apprennent aussi la réglementation française, ce qui n'est pas toujours évident.
Donc, excusez-moi, pour remettre un tout petit peu de cadre, donc là, les contrats dont vous parlez, vous en citez 3. Il y en a un qui a pas mal, qui est assez innovant, donc qui est à Rezé, qui est en cours. C'est, en gros, on met à disposition des terrains cette fois, et sans risque d'expulsion pendant une période prédéterminée. Là, en l'occurrence, sur Euzé, c'est deux ans.
Absolument.
Et ces terrains, contrairement aux bidonvilles dans lesquels sont les Roms souvent, ont accès à l'électricité,
oui,
l'eau. À l'eau potable, à la douche et à des toilettes.
Voilà, absolument.
Et en échange, les familles présentes sur place s'engagent, ce dont vous étiez en train de nous parler, sur certains points.
Voilà. Et là, c'est...
La scolarisation des enfants, la recherche de travail, le respect de règles communes.
L'apprentissage du français. On est dans une progression dans le droit commun avec un engagement mutuel des deux côtés. Ça, c'est ce qu'on voudrait. On comprend bien qu'on ne puisse pas trouver des logements tout de suite pour tout le monde, mais les expulsions répétées en échange d'absolument rien n'entraînent aucun bénéfice pour personne. Mmh. Simplement la multiplication des zones de non-droit, parce que les familles aussi se sont obligées d'apprendre à être dans la débrouille, et ça n'est jamais très bon pour personne. Et donc, on pense qu'il n'y a aucune utilité et que depuis 10 ans, ces familles qui tournent et qui restent dans la misère et dans une situation sociale et sanitaire qui est quand même assez préoccupante, en fait, ne bénéficient à personne et sont coûteuses puisque les expulsions ont un coût important aussi.
Et en même temps, moi comme avec mes yeux neufs sur la question, puisque je n'étais pas forcément engagé là-dedans, quand on voit comme un entretien qu'on vient d'écouter avec Rebecca, dans les conditions dans lesquelles effectivement elle vit, le français qu'elle utilise, la capacité d'analyse avec laquelle elle débat, elle utilise ces termes, etc. Moi, ça m'a extrêmement touché et je me dis que là, il y a une volonté effectivement.
Et une richesse à capter aussi pour la France dont vous parliez.
Absolument.
Introduction à Nick Plou.
Trilingue, cette petite quand même. Français, romani et roumain.
Donc des capacités, des richesses et une envie qui est très perceptible d'apprendre, de s'intégrer, utilisons les mots un peu plus proprement que d'autres ne le font.
Tout à fait.
Et, alors si on revient néanmoins là, sur les expérimentations qu'on vient de citer, à Saint-Plus, à Rezé. Rezé, je crois que pour deux terrains, le coût était de 450 000 euros avec des financements conjoints. Est-ce qu'on peut imaginer, puisqu'il reste en tout cas plus de 1500 personnes, et y compris des enfants roms sur l'agglomération qui sont encore dans les bidonvilles, de multiplier des solutions comme celle de Rezé? Est-ce que c'est dans les tuyaux?
Alors, il y a un projet qui est en cours, dont Nantes Métropole est assez fière, et nous souhaitons qu'il se réalise le plus vite possible, qui a été soutenu par l'ensemble des maires de la commune, qui s'appelle la MOUS, une maîtrise d'œuvres urbaines, soutenue par la DIAL, la DIAL étant un organisme qui a pour mission de trouver des logements pour l'ensemble des sans-logis, et qui finance en partie. Il y a aussi des financements européens. Nous sommes tout à fait satisfaits de ce projet. Nous sommes dubitatifs parce que pour l'instant, ils envisagent de n'accueillir que 10% des familles et la visibilité à plus long terme est comment dire, un petit peu lointaine. Ce que nous voulons dire, c'est que on peut préparer aussi les familles à s'intégrer par tous les moyens. Que cette maîtrise d'œuvre urbaine, cet accueil qui va être fait comme à Rezé.
Donc c'est une quinzaine de terrains qui vont être aménagés comme
à Rezé. Pour l'instant, on en est à 7, 8. On n'est pas à 15. Hein.
À l'horizon 2020, on est sur des choses plus courtes.
Bon, on n'arrive pas. Les choses sont en cours. Il y a des discussions. Si vous voulez, nous, ce qu'on dit, c'est oui, ça, c'est très bien. Allons-y, faisons-le. Mais les autres, il faut aussi ne pas. Comment dire, ne pas les déprimer, ne pas les mettre dans une situation de découragement telle qu'ils en viennent, d'une part, avoir du mal à progresser, à rester dans le droit, à accepter, à ne pas être trop plein de ressentis. Tout à l'heure, j'étais avec des familles à qui on venait de couper l'électricité pour des tas de raisons, des bonnes raisons, bien sûr, et qui me disaient « comment on peut vivre comme ça ? Comment on peut vivre comme ça ?» C'est vrai que c'est un peu difficile à entendre. Et qu'il y aurait la possibilité, ça existe, la loi française le prévoit, d'établir par exemple des compteurs, ce qu'on appelle des compteurs forains, c'est-à-dire l'électricité. On met l'électricité sous le contrôle de la mairie et de EDF ou d'Engie plus exactement. Et en échange, les familles paient en fonction de leurs besoins. cette progression-là, on peut faire des étapes. On n'est pas obligé de faire le grand saut et en attendant de maintenir les gens dans une misère qui est quand même assez pénible à voir.
Donc être dans le dialogue et dans la recherche de construction plutôt que dans l'expulsion systématique et avec récidive.
Et répéter. Voilà.
Oui, et puis effectivement, ce que tu dis, il y a un projet innovant là qu'il faut appuyer, mais il y aura effectivement des gens qui ne seront pas dans ce projet.
Alors,
et en attendant,
une majorité, puisque si on parle donc de 7 projets, ça veut dire que les deux tiers des 1500, 1600 personnes actuellement en bidonville sur l'agglomération ne pourront pas accéder à ces aires finalement aménagées.
C'est pas ça, tout de suite. Où et quand, on ne sait pas.
C'est ça. Et donc c'est pour ça, en attendant, être le plus humaniste et réfléchir le mieux. Tu parles des compteurs forains ou d'autres choses qui peuvent être bien pensées, parce qu'il faudra pas laisser non plus de côté parce qu'il y a un projet innovant et qui est bien.
Et ça, vous pouvez justement faire valoir ce point de vue et en discuter dans le cadre de la maîtrise d'œuvre ou en tout cas du dialogue que vous avez avec la métropole sur. Sur ce sujet ?
On essaye, c'est difficile. On utilise tous les moyens. Par exemple, on contacte le défenseur des droits aussi, hein, dans certains cas, pour dire est-ce que une municipalité n'a pas le devoir de faire telle et telle action en faveur des populations qui vivent depuis des années sur leur territoire ? La définition géographique d'un habitant de Nantes, c'est quelqu'un qui habite depuis plus de quelques mois ou en tout cas plus d'une année sur Nantes. Alors les Nantais, les Roms sont vraiment Nantais, les Roms qui vivent sur les bidonvilles.
Et d'autant que vous évoquiez tout à l'heure une vague en tout cas qui date de 2007, donc un peu plus de 10 ans maintenant. Merci d'être venu nous parler de la situation des Roms sur l'agglomération nantaise. Annick Clou, Guillaume Maille, pour la section nantaise de la Ligue des droits de l'homme. Pour se quitter, celles et ceux de nos auditeurs qui seraient intéressés par cette question, pour suivre l'actualité sur cette question, est-ce qu'il y a un site internet, un compte Facebook ?
Oui, nous avons un site internet de Roms Europe.
Effectivement, il y a le blog, je pense,
oui,
que c'est administré par un blog.
Qui est maintenant assez complet.
Donc voilà, donc il donne les informations. Et pareil, pour nous, la Ligue, donc c'est par la page Facebook ou par le site de la section. Mais je donne rendez-vous effectivement le 27 mars au Lutetia à Bougné, puis le 4 avril au Beaulieu à Bougné, à Saint-Herblain pour Lutetia.
C'est un documentaire coup de poing qui a été produit sur Arte et moi, j'ai appris des choses et j'ai vu des choses et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. C'est pour ça qu'on propose.
Merci à tous les deux. On se quitte.
Considérant que l'ignorance, l'oubli,
tous les hommes sont des égaux.
Ou le mépris des droits de l'homme.
La nouvelle déclaration universelle des droits de l'homme. La dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, de la justice et de la paix dans le monde,
ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits.
Les émeutes ont éclaté suite au
inaliénable
et inconnu des services de police.
C'est quand même curieux, c'est un texte qui a plus de 200 ans. Il n'y a pas grand-chose à y changer.
Chronique mensuelle de la section nantaise de la Ligue des droits de l'homme.